Vous écoutez On lit pour vous.
Le retour des cigognes. Un texte d'Élisabeth Vallet paru le 6 juin 2026 dans Le Devoir. Au sommet des minarets marocains, elles sont les témoins silencieuses d'un monde qui change, même pour elles. Chaque année, elles refaisaient leur apparition, signe des changements de saison, traçant de grands cercles autour de la flèche de l'ancien séminaire, certaines nichant ensuite sur le toit de l'église, d'autres se hâtant de reprendre leur transhumance. Presque inéluctablement, lorsqu'elles prenaient la voie du sud à l'automne, mon père m'envoyait un message. « Les cigognes repartent. J'aimerais savoir où elles vont. » Il n'est plus là pour me lire, mais j'aurais voulu lui dire que, cette année, je les avais trouvées au sommet des minarets de Tingir. En effet, lorsqu'elles quittent l'Alsace, les cigognes empruntent une voie sinueuse, suivant d'abord le couloir rhodanien pour ensuite bifurquer vers les Pyrénées catalanes et Gibraltar. En utilisant le passage où la Méditerranée est la plus étroite, elles sont assurées que les courants d'air chaud pourront les porter dans cette zone. Car la Mare Nostrum, cette mer qui résonne avec Croisette, Costa Brava et Golfe du Lion, est redoutable. Parce qu'elle est semi-fermée, elle concentre l'énergie là où l'océan la diffuse. Le Mistral et la Tramontane, les vagues scélérates, la Surcote, les croisements de houle peuvent métamorphoser cette mer d'huile en quelques heures à peine. Même les cigognes le savent. La violence de cette mer est telle que 35 000 personnes y ont perdu la vie au cours de ce premier quart de siècle en tentant de la traverser pour migrer sur des rafiots surchargés, des canaux rafistolés ou en tentant l'invraisemblable traversée à la nage sur des distances illusoirement courtes vers Gibraltar ou les esclaves espagnols du nord du Maroc. La Méditerranée n'a aucune indulgence. Au bord de la Méditerranée, l'Espagne contrôle la seule frontière terrestre de l'Union européenne en territoire africain, celle de deux petits territoires d'à peine plus de 18 et de 12 kilomètres carrés, Ceuta et Melilla. Dans la doctrine militaire ibérique, ces confettis d'empire qui lui sont rattachés depuis les 15e et 17e siècles sont des points commerciaux névralgiques et un ancrage stratégique central à la sécurité nationale espagnole. C'est aussi une porte d'entrée sur l'Europe et l'une des raisons pour lesquelles elle a été graduellement fortifiée dans la période contemporaine. Entrer par la voie terrestre sur le territoire espagnol de manière régulière requiert de passer 4 contrôles successifs du côté marocain et 1 du côté espagnol. L'entrée irrégulière est autrement complexe. Outre le fait que le Maroc contribue à la contention des migrants au profit de l'Union européenne, une manifestation évidente de l'externalisation des politiques migratoires, la frontière est émaillée de 3 barrières successives, allant jusqu'à 10 mètres de haut, du côté espagnol et de 2 du côté marocain, hérissées de fils barbelés et entre lesquels trônent des miradors occupés par des militaires. La forteresse Europe n'est pas une abstraction. Mais derrière cette coopération frontalière, ces territoires incarnent toute la complexité de l'équilibre géopolitique de la Méditerranée occidentale. Le Maroc, tout en assurant le contrôle migratoire à la périphérie de l'Union, réfute la souveraineté espagnole sur les esclaves, soulignant de plus en plus vocalement la marocanité de Ceuta et Melilla. Il faut dire qu'il a plusieurs atouts en main. Le premier tient aux stratégies hybrides qu'offre la pression migratoire. Relâcher les contrôles frontaliers exerce une pression immédiate sur les frontières des esclaves et donc sur l'Espagne, constituant un levier redoutable. Le deuxième est la construction de grands ports commerciaux sur la côte méditerranéenne, comme Tanger Med et Nador West Med, qui minore l'importance des ports espagnols et isole les deux villes au point où, Dans la péninsule ibérique, on a pu parler d'encerclement délibéré. Le dernier, et non le moindre, est diplomatique et repose sur une longue relation avec les États-Unis. En effet, le Royaume du Maroc a été l'un des premiers pays à reconnaître la toute nouvelle République américaine en 1777 et le traité d'amitié qui a été conclu dans la foulée en 1786 demeure la plus ancienne relation conventionnelle formelle des États-Unis. Et le bâtiment de la Légation américaine au cœur de la Casbah de Tanger, seul monument historique américain hors des États-Unis, atteste de ce lien étroit. L'histoire se joue sur un temps long. L'homme alors peu connu qui serre la main du roi Hassan II en 1991 sous l'objectif du photographe Mohamed Maradji sera, trois décennies plus tard, président des États-Unis. C'est lui qui reconnaîtra la position marocaine sur le Sahara occidental en 2020 en la liant aux accords d'Abraham, lui dont la diplomatie aura permis en octobre dernier l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution et de la tenue de pourparlers pour ce territoire. Il n'est donc pas négligeable qu'en avril 2026, un rapport de la Commission parlementaire des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis fasse référence à Ceuta et à Melilla comme deux villes sous administration espagnole en territoire marocain et qu'elle figure en des termes similaires dans un rapport remis au même moment au président. D'autant que le torchon brûle entre Madrid et Washington depuis que le premier ministre Sanchez a décidé de fermer l'espace aérien espagnol aux avions américains impliqués en Iran, suscitant l'ire de la Maison-Blanche en octobre et menant le Pentagone à évoquer la suspension de l'Espagne de l'Alliance Atlantique en avril. Ce glissement n'est pas anodin et s'inscrit dans la recomposition des termes de l'Alliance Trans-Afro-Atlantique. En devançant, ce qui témoigne d'une certaine urgence, la négociation de l'accord militaire entre les deux pays, les États-Unis font du Maroc, pour la période 2026-2036, l'un des pivots stratégiques de leur politique étrangère et la clé de voûte de leur stratégie africaine. Il est désormais le premier pays africain à intégrer le système Link-16, standard de communication tactique chiffré de l'OTAN, et il est pensé comme un véritable corridor stratégique intercontinental permettant de consolider à la fois l'accès aux ressources critiques et le verrouillage préventif de Gibraltar. Vu de la citadelle de Melilla et de bien d'autres territoires périphériques qui pourraient se retrouver dans la mire des États-Unis, ces glissements, dans un monde en mutation profonde, sont considérables, voire existentiels. Au sommet des minarets, les cigognes sont les témoins silencieux d'un monde qui change, même pour elles, qui hésitent désormais à franchir le Sahara et se sédentarisent en Espagne et au Maroc, au point où, dit la science, elles pourraient en oublier leur géographie nomade. C'était Le retour des cigognes. Un texte d'Élisabeth Vallet paru le 6 juin 2026 dans Le Devoir.
La pauvreté et l'itinérance sont l'affaire de nous tous. Un éditorial de Michel Lagacé paru le 30 mai 2026 dans La Liberté. Jour après jour, les médias nous rappellent impitoyablement que trop de nos concitoyens éprouvent beaucoup de difficultés à vivre une vie convenable. Le nombre de personnes sans-abri ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de toxicomanes, de victimes de surdoses et encore d'autres qui souffrent de troubles de santé mentale. La méthamphétamine ravage les rues de Winnipeg et le fentanyl ajoute une dimension mortelle à cette urgence de santé publique. Pas surprenant alors que les services d'urgence sont débordés et les temps d'attente aux urgences des hôpitaux demeurent obstinément élevés. Surtout au centre-ville de Winnipeg, de plus en plus de résidents, de commerçants et de propriétaires d'entreprises dénoncent la recrudescence des actes de violence gratuite, la consommation de drogue en public et le chaos généralisé. Le plus récent indice de la dégradation de notre bien-être collectif vient d'être annoncé. Le Manitoba est aujourd'hui la seule province du pays à avoir déclaré l'état d'urgence sanitaire à cause de la forte augmentation du taux d'infection du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Et malgré l'attention et le financement accru des gouvernements, la situation sociale de la province semble continuer de s'aggraver. Le gouvernement du Manitoba a investi des ressources considérables dans le programme Your Way Home, son plan pour mettre fin à l'itinérance chronique. Il vise à lutter contre l'itinérance en relogeant les personnes sans-abri dans des logements stables et permanents, tout en leur offrant un accompagnement social et de santé. Malgré ces efforts, il semblerait que le nombre de personnes sans-abri augmente, même si le programme permet à un plus grand nombre d'entre elles d'accéder à des logements supervisés. Des organismes à but non lucratif travaillent de pair avec les gouvernements pour lutter contre la précarité sociale. Mais eux aussi connaissent des difficultés. Par exemple, au mois de février, Silo Mission, un des plus grands refuges pour les sans-abri, a nommé Sonia Prévost-Derbecker au poste de directrice générale, sa troisième directrice générale en 3 ans. Une semaine plus tard, des employés ont demandé qu'elle soit destituée, bien que, femme autochtone elle-même, elle aurait fait des remarques désobligeantes et dénigrantes à propos des peuples autochtones. Début mai, cette même directrice générale a annoncé la mise à pied de 16 personnes à partir du 1er juin à cause d'un déficit prévu de 4 millions de dollars. Les dépenses ont été de 18,8 millions de dollars l'an dernier. C'est dire que la lutte contre l'itinérance, la pauvreté et la toxicodépendance exige de plus en plus d'efforts alors que les moyens disponibles pour mener cette lutte n'augmentent pas. Face à la situation actuelle au Manitoba, il ne peut être question de baisser les bras. Nos concitoyens ont besoin de soutien. Et puisque des élections municipales sont prévues pour le 28 octobre, il serait important de rappeler aux candidats qui se présenteront qu'ils doivent faire leur part pour réduire la misère humaine chez nous. Car la pauvreté, l'itinérance, les toxicomanies et les problèmes de santé mentale sont le problème de nous tous. C'était « La pauvreté et l'itinérance sont l'affaire de nous tous ». Un éditorial de Michel Lagacé, paru le 30 mai 2026 dans La Liberté.
Le Vert et Or célèbre les athlètes LGBTQ+. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 9 juin 2026 dans La Presse. Lors du gala annuel du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke le 1er avril dernier, la foule s'est levée spontanément pour célébrer Maude Tanguay. La joueuse de rugby est ainsi devenue la première lauréate de la bourse de l'athlète étudiant-étudiante LGBTQ+ de l'année. Cette distinction lui a été remise par le peintre et ancien membre de l'équipe nationale d'athlétisme Marc Sanson. C'était magique, se souvient le philanthrope avec émotion. La salle était pleine d'athlètes de toutes les équipes qui ont vu Maude être célébrée. Ça leur envoyait un message très positif. Habituellement nerveuse devant public, l'athlète a été surprise par ce qu'elle a vécu ce soir-là. « Je me sentais vraiment bien, finalement, » dit-elle. « C'était beau de voir que j'étais soutenue par tout le monde, surtout après avoir vu certains commentaires négatifs et homophobes quand la bourse a été annoncée. » En effet, après avoir révélé la création de la bourse sur les réseaux sociaux le 25 mars dernier, l'équipe des communications du Vert et Or avait été forcée d'intervenir en publiant ce message. Les commentaires transphobes et homophobes sous cette publication sont inacceptables et nous sommes conscients qu'ils ont pu blesser les membres de notre communauté. C'est pourquoi nous avons restreint les commentaires. Renverser la vapeur. La bourse est une idée de Marc Sanson, qui a porté les couleurs du Vert et Or de 1985 à 1989. Il y a 40 ans, il n'y avait aucun athlète ouvertement gay. Je n'avais pas de modèle. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, mais il y a encore de l'homophobie dans le sport. Je veux célébrer ces athlètes qui ont le guts d'être eux-mêmes et de montrer le chemin à ceux qui s'en viennent. Dans les années 1980, le spécialiste du 110 mètres ne pouvait pas être lui-même au quotidien. J'avais peur de parler de mon orientation sexuelle car j'entendais souvent des propos péjoratifs d'autres athlètes et des entraîneurs. il ne réalisait pas l'impact négatif qu'il pouvait avoir. Bien qu'il ait fait sa place dans l'équipe canadienne à 3 reprises, il est persuadé qu'il aurait été meilleur dans un contexte ouvert et inclusif. En 1992, après avoir participé à la sélection olympique, il a accroché ses souliers et rencontré son amoureux. 5 ans plus tard, il est revenu à la compétition, cette fois en s'affirmant ouvertement gay. J'avais l'impression de ne plus avoir la pression de devoir performer pour prouver aux autres et à moi-même que j'avais de la valeur, même si je suis différent de la majorité. J'ai réalisé des super performances à 33 ans, alors que je m'entraînais moins. Quand il a proposé une bourse pour soutenir les athlètes LGBTQ+, le vert et or l'a appuyé sans retenue. Nous avons une volonté claire de bâtir un environnement sportif où les performances ne sont jamais compromises par la peur du jugement, où chacun peut s'entraîner, évoluer et s'exprimer en toute liberté, explique Jean-Benoît Jubainville, directeur du sport d'excellence chez les Verts et Or. Un sport de contact bienveillant. C'est d'ailleurs un environnement très ouvert qui a permis à Maude Tanguay de s'épanouir. À mes débuts en rugby, dans mon club en Beauce, j'étais le bébé à 18 ans. J'étais entouré de filles dans la vingtaine qui étaient pleinement assumées. En les voyant, ça m'a permis de me découvrir en tant que personne et d'assumer mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, elle juge que le rugby est très inclusif. Que tu sois gay, hétéro ou trans, tout le monde est le bienvenu. Quand j'étais à ma première année au Vert et Or, il y avait une personne dans notre équipe féminine qui transitionnait et c'était correct. Je sais que je suis chanceuse et que tout le monde ne vit pas ça. Marc Sanson a choisi de lui offrir 2 000 $ pour son leadership. Pourtant, l'athlète dit ne pas faire beaucoup de bruit dans son équipe. « Je suis discrète, mais authentique et humaine. C'est important pour moi que tout le monde se sente bien. Quand il y a des situations plus difficiles, je suis là pour mes coéquipières et je n'hésite pas à prendre la parole. » Le philanthrope souhaite qu'un jour, la bourse ne soit plus nécessaire. J'espère qu'on n'aura plus besoin de célébrer les athlètes LGBTQ+, parce qu'ils font partie de la normalité, mais on est tellement loin de ça. Dans les sports d'équipe universitaire masculin, hockey, football, soccer, personne n'est ouvertement gay. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Alors que certaines voix affirment qu'on devrait se concentrer sur les performances athlétiques et n'accorder aucune importance à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre des athlètes, Jean-Benoît Jubainville préfère se baser sur des réalités concrètes. Nous savons qu'il n'est pas facile pour toutes les personnes étudiantes athlètes de vivre ouvertement leur diversité sexuelle et nous espérons célébrer une personne qui le fait et qui, souvent sans le savoir, devient un modèle pour les autres. Nous souhaitons que cette bourse ne soit pas éternelle dans un monde sportif où l'inclusion deviendra la normalité. C'était « Le vert et or célèbre les athlètes LGBTQ+, », un texte de Samuel Larochelle, paru le 9 juin 2026 dans La Presse.
Diabète, hypertension, AVC, voici ce qu'une étude américaine révèle sur les microplastiques. Un texte de Nathalie Meyer, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science. Les microplastiques, ils sont partout. Et les scientifiques cherchent désormais à déterminer si cette omniprésence dans notre environnement pourrait nuire à notre santé. Ils rapportent aujourd'hui un lien avec plusieurs maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Les semaines se suivent et pas une ne semble vouloir désormais passer sans la publication de nouvelles études sur les microplastiques. Parmi les dernières en date, celle de l'Université de Californie aux États-Unis, qui montre que mâcher du chewing-gum libère au moins des centaines de particules de plastique dans la salive.
ou encore celle de l'association Agir pour l'environnement, qui fait le point sur la pollution aux microplastiques dans les bouteilles d'eau. Toutes deux plutôt dans le domaine du constat. Même si de ce point de vue, tout le monde est à peu près d'accord, il y a des microplastiques partout. Le saviez-vous ? Les microplastiques sont des fragments d'un nanomètre à 5 mm, issus de la décomposition d'objets ou de déchets en plastique. Ils sont libérés par les emballages alimentaires et les emballages de boissons, les produits de consommation et les matériaux de construction. L'exposition se fait par ingestion ou par inhalation. Des chercheurs de la Case Western Reserve School of Medicine aux États-Unis ont abordé lors de la rencontre annuelle de l'American College of Cardiology un autre sujet qui fait un peu plus débat, celui des effets qu'une exposition accrue aux microplastiques pourrait avoir sur notre santé. Et ils rapportent que les endroits où les concentrations de microplastiques jugées par des mesures au niveau des plans d'eau sont élevées présentent des taux plus élevés d'hypertension, de diabète, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies non transmissibles. Le lien entre microplastiques et maladies chroniques reste à préciser. Lorsque nous avons inclus 154 caractéristiques socio-économiques et environnementales différentes dans notre analyse, nous ne nous attendions pas à ce que les microplastiques se classent parmi les 10 principaux facteurs prédictifs de la prévalence des maladies chroniques non transmissibles. Note Sairaul Ponana, auteur principal de l'étude, dans un communiqué de l'American College of Cardiology. Le lien entre concentration de microplastiques et risque d'accident vasculaire cérébral, par exemple, s'avère comparable à des facteurs tels que l'appartenance à une minorité ethnique et l'absence d'assurance maladie. Les chercheurs soulignent par ailleurs que des concentrations plus élevées de pollution par les microplastiques sont associées à une prévalence plus élevée de maladies. Cette étude fournit ainsi les premières preuves d'une association entre l'exposition aux microplastiques et la santé cardiovasculaire. Cependant, les chercheurs rappellent que cette association ne signifie pas nécessairement que les microplastiques sont à l'origine de ces problèmes de santé. D'autres études seront nécessaires pour déterminer s'il existe un lien de cause à effet. Ou si, pourquoi pas, cette pollution est en réalité concomitante à un autre facteur à l'origine de ces problèmes. Si le lien de cause à effet se confirme, il faudra également déterminer le degré d'exposition ou le temps nécessaire pour que l'exposition aux microplastiques ait un impact sur la santé. Prendre des mesures pour réduire notre exposition aux microplastiques. Déjà, une autre étude, présentée elle aussi lors de la rencontre annuelle de l'American College of Cardiology, rapporte une forte corrélation entre la présence de microplastiques dans les plaques artérielles cardiaques et le risque d'événements cardiovasculaires indésirables. De quoi soutenir l'idée que la présence de microplastiques pourrait jouer un rôle dans l'apparition ou l'aggravation de problèmes cardiaques graves. Au vu des données disponibles, il est raisonnable de penser que les microplastiques pourraient jouer un rôle sur la santé et que nous devons prendre des mesures pour réduire l'exposition, estime Sairaul Ponana. De ce point de vue, éviter l'ingestion ou l'inhalation de microplastiques présents dans l'environnement semble utopique. Ainsi, selon les chercheurs, le meilleur moyen de minimiser l'exposition est de réduire la quantité de plastique produite et utilisée et de garantir une élimination appropriée. L'environnement joue un rôle très important pour notre santé, en particulier pour notre santé cardiovasculaire. Par conséquent, prendre soin de notre environnement signifie prendre soin de nous-mêmes, conclut Sairaul Ponana. C'était diabète, hypertension, AVC. Voici ce qu'une étude américaine révèle sur les microplastiques. Un texte de Nathalie Meyer, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science.
Perdre sa vie sur les réseaux sociaux. Non merci. Un texte de Karine Gagnon paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Québec. On ne cesse de répéter à quel point la vie passe vite. Peut-on vraiment se permettre d'en perdre une aussi grande partie sur les réseaux sociaux? Faites l'exercice pour voir. Allez dans les réglages de votre téléphone intelligent où se trouve votre temps d'écran en moyenne chaque jour. Ça se pourrait que vous fassiez le saut. L'an dernier, j'ai été invité à participer à un colloque sur les écrans organisé par l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, OPES, à l'Université de Montréal. Emmanuelle Parent, cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, CIEL, y a invité tous les participants à se prêter à cet exercice. Et honnêtement, ça fait réfléchir, car on ne se rend pas compte de tout le temps qu'on y passe. On ne cesse de répéter à quel point la vie passe vite. Peut-on vraiment se permettre d'en perdre une aussi grande partie sur les réseaux sociaux? C'est précisément ce que refusent désormais de faire les gens rencontrés par mon collègue dans le cadre de notre dossier sur la déconnexion volontaire. Quand les écrans rendent malades ou sont devenus un organe de votre propre corps, comme l'expriment des directeurs d'école à propos de certains jeunes, il faut réagir. La question que se pose la directrice Marie-Josée Pelletier est très pertinente. N'est-on pas en train de scraper nos jeunes avec les réseaux sociaux? Plus proactif. Il y a bien des mesures sur lesquelles peuvent plancher nos décideurs pour aider les gens à mieux gérer leur temps passé sur les réseaux sociaux et les écrans. L'Australie, comme le rappelle notre reportage, a décidé d'interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. En Norvège, on a décidé d'agir sur les fonctionnalités qui visent l'addiction au réseau. De plus en plus de poursuites sont intentées contre les géants du web par rapport à ces algorithmes qui incitent à demeurer connectés. Nous pouvons agir davantage au Québec, comme nous l'avons fait déjà avec l'interdiction du cellulaire dans les écoles primaires et secondaires. Les impacts positifs de cette mesure sont nombreux, comme en témoigne le milieu scolaire. Les jeunes socialisent à nouveau entre eux. Ils redeviennent plus actifs, sans crainte de se faire filmer avec un téléphone. Élu trop branché. Comme analyste de la scène politique, je note par ailleurs que bien des politiciens font une surutilisation des réseaux sociaux. L'idée, c'est d'y rejoindre un grand nombre de personnes et une clientèle plus jeune. Mais si la clientèle plus jeune, on veut l'inciter à mieux gérer son utilisation des écrans, quel exemple leur offre-t-on en procédant ainsi? C'est bien beau, les commissions transpartisanes sur les écrans et l'adoption de mesures pour protéger les jeunes. Mais il faut avant tout faire preuve de cohérence. Publier sur les réseaux sociaux pour expliquer des enjeux ou annoncer un investissement, c'est approprié pour un élu. Inonder les réseaux d'images et de vidéos de sa vie personnelle, c'est une autre histoire. La dépendance aux réseaux sociaux rend malade. Le simple fait d'en être conscient et d'agir en conséquence serait déjà un bon pas pour nos décideurs. C'était « Perdre sa vie sur les réseaux sociaux. Non merci ». Un texte de Karine Gagnon paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Québec.